RCF.
Fidèles auditeurs, auditrices de RCF et de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry, se raconte avec Agora Défense. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission, nous accueillons ni un militaire, ni un écrivain, ou un grand témoin, mais une personne qui a la responsabilité de recueillir, d'accueillir les témoignages écrits, mais aussi photographiques et autres supports informatiques, de les stocker pour de longues années et même plus. Source inépuisable pour les futures générations en recherche de compréhension et d'analyse de nos quotidiens. Vous avez deviné, il s'agit des archives. Et nous accueillons M. Xavier Laurent, directeur des archives départementales du Cher et directeur du Musée de la Résistance. Ces deux institutions, je précise, se situent à Bourges, rue Jean-Marie Hortot de la Merville, à proximité du lac d'Oron, pour être bien précis. Cher monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation et de prendre du temps. Ma première question est toute simple. Comment devient-on directeur des archives départementales du Cher et directeur du musée de la Résistance ?
Alors, à la base du métier d'archiviste, il y a toujours une envie de faire de l'histoire. Ça, c'est la motivation sans doute la plus importante. Cette envie de faire de l'histoire, je l'ai traduite dans mes études. Donc, j'ai suivi les cours de l'École nationale des chartes. C'est une école qui prépare à la conservation du patrimoine écrit. Et ensuite, je suis passé par l'Institut national du patrimoine qui forme les conservateurs du patrimoine. Donc, j'étais dans cette voie de devenir archiviste. Et après deux autres postes en archives départementales, je suis arrivé dans le Cher il y a un peu plus de 12 ans.
Un baccalauréat littéraire.
Tout à fait. Des classes préparatoires.
Votre classe prépa, où ?
Alors, j'ai fait des classes préparatoires au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg.
Ah oui, d'accord, ouais. Très bien.
Et c'est des classes préparatoires qui sont orientées déjà vers l'école des chartes, donc où il y a beaucoup de latin, d'histoire, de français, voilà, des matières littéraires et des langues vivantes aussi.
Mais est-ce que vous avez une formation classique latin-grec ?
Alors, j'ai pas fait de grec, moi. Non. Donc, j'ai une formation juste latin et français et littéraire, ouais.
Et l'école nationale se situe à Paris, je suppose.
Oui, l'école des chartes se situe, et quand j'y étais,
oui.
À la Sorbonne, juste à côté de la chapelle, la porte de gauche. Maintenant,
oui.
Elle est rue de Richelieu, juste en face de la Bibliothèque nationale de France.
Véritablement, monsieur Laurent, et une vocation, un plaisir.
Oui, moi c'était une vocation assez précoce, j'aimais beaucoup les visites culturelles de monuments que je pouvais faire avec mes parents. Après je me suis occupé aussi de chantiers de restauration de monuments historiques, j'avais vraiment du goût pour l'histoire et pour le patrimoine, ouais.
Oui, c'est véritablement une passion.
Oui, j'ai toujours beaucoup de plaisir à exercer ce métier, parce que c'est un métier aussi où on peut être curieux, et je pense que c'est une pente de mon caractère. On voit beaucoup de milieux différents. À travers les archives, finalement, on découvre plein de vies différentes. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est pas seulement l'archiviste érudit penché sur ses manuscrits qu'on peut imaginer peut-être un peu. Non, c'est aussi la rencontre, en fait.
Alors justement, est-ce que vous pourriez me préciser votre mission en tant que directeur des archives départementales du Cher ? Bon, vous avez une feuille de route, je suppose. Quelle est votre feuille de route, monsieur Laurent ?
Le premier élément auquel on est tous attachés, archivistes, c'est la conservation. Hein, on se sent vraiment un maillon d'une chaîne, en fait. On conserve aux archives départementales du Cher des documents qui ont plus de 1000 ans. Notre rôle, c'est de les faire durer, de les passer aux générations futures. Ça, c'est la conservation. Après, il y a la collecte, parce que les archives, ce n'est pas seulement des vieux documents. Il faut aussi qu'on porte témoignage de l'époque que l'on rencontre et peut-être aussi de milieux ou d'événements qui ne sont pas couverts par les archives jusqu'à présent. Et puis, il y a la communication, parce que avoir des archives, c'est bien, mais les partager avec le public, c'est quand même la finalité de notre métier. Alors, à partir d'expositions, à partir de... la salle de lecture, bien sûr, hein, qui est le lieu où les étudiants, les chercheurs prennent connaissance du contenu des archives.
On va rentrer un peu dans le détail de votre organisation des archives départementales. Avec cette question, comment s'organise votre service ? Combien disposez-vous de personnes ? Et quel est leur concret du quotidien ? Je me transforme en employé des archives départementales. J'arrive le matin, qu'est-ce que je dois faire ?
Les employés des archives départementales, ils sont 27 aujourd'hui, et ils sont répartis en plusieurs services qui ont des spécialités. Donc il y a ceux qui s'occupent plutôt de la collecte, donc ces gens-là, ils vont aller au contact des administrations, mais des administrations qui peuvent être très variées. Hein. On va aussi bien à la prison qu'à la préfecture, qu'au conseil départemental. Et au contact des fonctionnaires qui produisent des archives publiques, on va sélectionner ce qui paraît important pour porter témoignage de notre époque. Donc, par exemple, on va s'intéresser aux archives qui ont été produites pendant le Covid.
Oui.
Parce que ça, c'est un événement quand même sur lequel on se penchera certainement à l'avenir. Donc, quelles mesures d'urgence on a mis en place à la préfecture, du côté de l'Agence régionale de santé, de sa délégation départementale, etc. On va aller chercher des documents qui nous semblent intéressants. Alors, on prend pas tout, on en élimine beaucoup. C'est une sélection, les archives, en fait. Hein. C'est un peu comme les monuments historiques. On ne protège pas tout ce qui a été bâti par l'homme. Mais on en prend une sélection, ce qui paraît le plus réussi, le plus important et peut-être le plus typique. On fait à peu près la même chose dans les archives. Donc ça, c'est la collecte. Il y a des gens aussi qui vont aux archives qui sont plus sur le classement. Donc eux, ils vont avoir des maîtres et des maîtres d'archives qu'il faut mettre en ordre et qu'il faut décrire. Parce que si on n'a pas d'inventaire, le chercheur, il ne sait pas ce qu'il y a dans les archives, dans les cartons, et du coup, il ne peut pas chercher efficacement. Donc il y a tout un travail aussi un peu souterrain, comme ça, qu'on ne devine pas forcément, mais qui est préparatoire à l'acte de prendre connaissance des archives et d'écrire l'histoire, quoi. Et puis, on a des archivistes qui sont tournés plutôt vers la médiation, c'est-à-dire qu'ils vont apporter les archives vers le public. Alors ça peut être le public scolaire, pour nous c'est important, le public scolaire, mais ça peut être aussi le grand public dans des expositions, etc.
Nous avons connu malheureusement ce qu'on appelle la période Covid. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette période au niveau de l'administration ? Je puis vous assurer que nous avons reçu une multitude de documents dans ce qui concerne le Covid dans la commune où j'habite. Qu'est-ce que vous allez retenir ? Parce que moi, c'est des tonnes de papiers que j'ai reçus, hein, des tonnes de circulaires que j'ai imprimés. Alors, qu'est-ce que vous allez retenir ? Et il y a les circulaires officiels qui viennent du ministère, qui arrivent dans les préfectures, qui sont ensuite dispatchés. Qu'est-ce que vous allez retenir ? Parce que il y a une multitude de documents. Et je voudrais dire, par jour, parfois, vous aviez deux circulaires qui parfois étaient contradictoires.
Eh ben justement, ça peut être intéressant justement d'avoir un jeu de toutes ces circulaires, parce qu'elles prouvent aussi que on a dû s'adapter très vite, que parfois on a fait des erreurs, que ce qu'on disait du Covid au tout départ, au mois de janvier, c'était plus la même chose qu'au mois d'avril. La mise en place des centres de vaccination, tout ça s'est fait dans une certaine urgence, une certaine improvisation, et les circulaires le montreront. Hein, où je pense au protocole aussi qu'il y a eu dans les écoles, qui était âgé continu quasiment. Ouais. Tout ça portera témoignage quand même de notre époque et des difficultés. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, peut-être dans le Covid, c'est d'essayer de retrouver aussi comment les gens ont vécu l'événement. Alors ça, on ne l'aura pas forcément dans les circulaires. Mais pendant le Covid ou juste après, certains services d'archives, et c'était le cas des archives municipales de Bourges, ont fait aussi appel à la population pour avoir des archives. Qu'est-ce que vous avez produit pendant le Covid ? Et parfois, il y a des gens qui ont tenu un journal, qui ont dit « je me suis mis à déambuler dans les rues de Bourges, il n'y avait plus personne, c'était merveilleux, j'ai fait des photos, tenez ». Et les archives municipales de Bourges ont collecté comme ça des témoignages aussi qui donnent de la chair finalement à l'événement.
L'épisode du Covid est intéressant. Alors je vous pose déjà une petite colle. Est-ce que vous allez collecter éventuellement des écrits qu'on va trouver sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que c'est possible ou pas ? Comment le faites-vous ? Parce que c'est compliqué là. Hein ? C'est compliqué le choix de l'information. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fausses nouvelles. Hein, les fausses nouvelles qu'on appelle trop souvent fake news, qui menarent dans le français. Voilà, je le rends.
Alors, collecter les réseaux sociaux, souvent c'est assez compliqué d'un point de vue technique, en fait, aussi, parce que c'est un petit peu prisonnier, en fait, de la plateforme sur laquelle ça se trouve. Mais de façon volontaire, encore une fois, les auteurs de journaux, d'écrits intimes, de petits posts, pourraient très bien remettre aux archives ce qu'ils ont produit pendant la période, et ça peut être intéressant. On s'adresse aussi aux particuliers, hein, pas seulement aux administrations, pour avoir aussi des archives qui sont plus intimes, plus charnelles, par exemple, avec un événement comme celui qui touchait les corps, qu'est le Covid, quoi.
Monsieur Laurent, comment un simple citoyen peut accéder aux archives ? Je vous donne un exemple. Je cherche l'histoire du camp de Beauvoir, de Marmagne, hein, commune qui jouxte Moulins-sur-Yerres. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme renseignement ou quel type de piste ? C'est très concret, hein.
Les archives, il faut d'abord savoir que c'est accessible à tout le monde. Voilà, hein. Il n'y a pas besoin d'être inscrit à l'université, d'avoir écrit des travaux. Voilà. On vient comme on est. Il n'y a pas non plus de conditions d'âge, etc. Voilà. C'est gratuit. On se fait délivrer une carte sur présentation d'une pièce d'identité. Et ensuite, on entre dans la salle de lecture. Et là, souvent, on vient dans la salle de lecture avec une idée très précise. Pour vous, c'est le camp de Beauvoir, ouais, construit par les Américains pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que dans les archives, finalement, on est un peu comme un policier qui mène une enquête. C'est-à-dire qu'on va additionner des petits indices, en fait. Mais on n'aura pas un seul dossier où tout le savoir sur le camp de Beauvoir sera concentré. Donc, il va falloir aller piocher à droite, à gauche, dans les sources et... Pour ce faire, vous aurez des conseils. Il y a quelqu'un qui est en permanence en salle de lecture, qui est souvent très bon connaisseur des sources qui sont conservées aux archives départementales et qui vous aide, en fait. Donc, pour le camp de Beauvoir, par exemple, il saura que les archives départementales conservent un journal que les Américains ont produit pendant, oui, la Première Guerre mondiale, qui s'appelle The Crow.
The Crow, oui.
Il connaîtra certainement les travaux que Michel Delagarde a pu faire sur ce camp de Beauvoir. Donc, il retrouvera les traces des expositions que Michel Delagarde a fait, qui ont donné lieu parfois à des petits catalogues, et, oui, il pourra vous les remettre. Et puis, ensuite, il vous fera chercher peut-être dans les affaires communales de Marmagne, de Meun, qui peuvent parler du camp de Beauvoir aussi. Il vous donnera comme ça plusieurs pistes. Et parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Il y a des frustrations un peu aussi dans la recherche en archives.
Justement, les communes remettent des documents aux archives. Alors, comment ça se passe ?
Alors, tout à fait. Les communes de moins de 2000 habitants, la loi prévoit qu'elles remettent aux archives départementales leurs archives anciennes. Pour les communes de plus de 2000, c'est une option. Elles le font pas, c'est selon leur choix, selon les conditions de conservation qu'elles peuvent apporter aux archives aussi. Donc, on a des archives qui viennent des communes, qui sont déposées aux archives départementales et qui sont communicables dans la salle de lecture comme les archives des autres administrations.
Merci, monsieur Laurent, directeur des archives départementales du Cher, pour ces explications qui, je sais, ne sont qu'un prélude à une future autre émission. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices, pour votre écoute et à très bientôt sur RCF pour une nouvelle émission dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonne semaine à vous et merci, monsieur.